Bonjour. Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons porter un regard philosophique sur le roman graphique Maus, publié par Art Spiegelman entre 1980 et 1991 aux États-Unis. Il s'agit d'une œuvre en noir et blanc, biographique voire autobiographique, car elle est composée d'entretiens entre Art Spiegelman, l'auteur, et son père, rescapé d'Auschwitz. La bande dessinée représente donc un récit de transmission de la Shoah. Elle nous raconte à travers des témoignages du père de l'auteur la vie d'un juif passé par les camps durant la Seconde Guerre mondiale. Vladek a tout vécu, les ghettos, les toiles jaunes, les combats, les cachettes, les camps d'extermination. On est vite impressionné par le nombre de fois où il a fait, entre guillemets, le bon choix. S'il avait tourné de l'autre côté à ce moment-là, il serait mort. Les risques entrepris sont inimaginables aujourd'hui, mais le fait que l'histoire soit déroulée sous la forme d'un témoignage rythmé nous frappe de réalisme et de vérité. À cela s'ajoute la force émotionnelle du noir et blanc qui tout de suite connote un aspect dramatique et de plongeon dans le passé. De plus, dans cette bande dessinée, tout a un sens. L'auteur emploie des métaphores en représentant chaque nationalité par des animaux. En effet, les Juifs sont des souris, les Allemands des chats et les Polonais des cochons. Ce recours au zoomorphisme reprend en écho les affiches de propagande nazie sur lesquelles, par exemple, les Polonais étaient dessinés en porc et les Juifs en rat. À cela s'ajoute l'éternelle poursuite du chat et de la souris. D'où le titre d'ailleurs « Maus » qui signifie « souris » en allemand. Cette œuvre est donc particulièrement puissante de par son entrecroisement entre deux temporalités. D'un côté, un récit au présent, d'un homme qui essaie d'établir un lien avec son père et de comprendre son passé. Et de l'autre, le récit du père, au passé, juif polonais durant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait sûrement parler pendant des heures des subtilités qu'emploie Spiegelman pour narrer à sa manière l'horreur de la Shoah, telles que le changement de forme des vignettes au passage dans les camps de la mort, ainsi que son positionnement sous un angle humoristique ou ironique, ajoutant une dimension de légèreté et d'humanité dans le récit et permettant de porter le poids de l'horreur de l'histoire. On pourrait alors se demander dans quelle mesure il s'agit d'une mise en récit artistique de la Shoah et si elle représenterait un certain esthétisme en comparaison avec les œuvres de Primo Levi ou Lanzmann par exemple. En effet, Maus a été très critiqué dès sa première publication. L'emploi du zoomorphisme est alors considéré comme une approche triviale et irrespectueuse de l'horreur. Et le genre utilisé, c'est-à-dire la bande dessinée, comme un genre infantile produit de la culture de masse. On peut associer cette expression de « culture de masse » à Hannah Arendt, qui n'a malheureusement pas eu l'occasion de lire Maus car elle est décédée à peine 5 ans avant sa première publication, mais on peut s'intéresser à ce qu'aurait été son point de vue. Pour rappel, Hannah Arendt est une politologue et philosophe juive allemande ayant vécu la majeure partie de sa vie aux États-Unis. Elle écrit en 1951 « Les origines du totalitarisme », puis en 1954, La crise de la culture. Dans cette dernière œuvre, elle s'interroge sur la capacité de l'homme à se forger une culture dans un présent tiraillé entre passé ou tradition et avenir. Pour en revenir à nos moutons, c'est donc dans cette œuvre qu'elle emploie le terme de culture de masse. Elle l'associe à une société de masse en opposition aux sociétés traditionnelles qui correspondait selon elle à un rassemblement d'hommes dans un espace public. Cette société serait alors ouverte sur elle-même sans constituer une masse à proprement parler. A l'inverse, apparaîtrait au XXe siècle une société dite de masse, donc, dans laquelle disparaîtrait l'individualité du peuple, qui ne serait alors plus qu'un ensemble indifférencié, ce que Rousseau appelle la populace. Là où, à l'inverse, la culture traditionnelle est élitiste et échappe à la massification, à la démocratisation. Alors attention, Arendt ne juge pas cette société de masse qui n'est qu'un phénomène de mode auquel on ne peut pas échapper, mais avertit sur les rapports dangereux entre la culture et cette société de masse. En effet, si la société est scandée par le monde de la vie, c'est-à-dire tout un ensemble d'actions qui ont toute une fin et qui sont créées pour se répéter de façon cyclique, on peut penser au fameux métro-boulot-dodo. À l'inverse, le monde de la culture, c'est le monde des œuvres, des objets qui subsistent, qui possède un statut objectif qui perdure et tisse le lien alors entre passé et avenir. Hannah Arendt dit, je cite, « Seul ce qui dure à travers les siècles peut revendiquer être un objet culturel ». Et c'est donc ici que naît, selon Arendt, la fameuse crise de la culture, dans la mesure où la société de masse va confondre culture et consommation. Or, la frontière entre les deux concepts est bien fine dans la mesure où le loisir fait partie de la consommation, selon Arendt. En effet, le loisir est créé dans un objectif de passer le temps, se détourner de la misère de l'homme, selon Pascal. On peut penser au cinéma, à la bande dessinée, au théâtre, à la musique. Un produit du loisir serait donc lui aussi détruit dans ce phénomène cyclique, cette valse tournante incessante de la consommation. Ainsi, donc, pour en revenir à Maus, la bande dessinée s'associerait donc à l'une de ces manifestations spontanées et finies qui fait partie du cycle de la vie et donc d'un monde unique et commun, en opposition aux manifestations permanentes qui ouvrent un monde spécifique dans la culture. En effet, chaque œuvre observée nous fait voyager dans un monde qui lui est propre. Mais c'est justement sur cette brèche que prend forme toute la puissance de l'ouvrage. Au contraire, Spiegelman parvient à détourner l'essence même d'un produit de loisir, un produit de consommation, pour en faire une véritable œuvre, un élément de culture. Son récit a beau être ironique, caricatural, voire satirique sur certains points, il en reste une représentation de la Shoah des plus réalistes et fidèles, absolument incomparable avec un quelconque Tintin ou Boulet Bill. Et c'est justement en l'inscrivant dans la culture de masse, avec humilité, qu'il détourne habilement Maus d'une représentation artistique ou esthétique de l'indicible. En fait, on peut considérer qu'en réalité, aucun genre artistique, littéraire, cinématographique n'est adapté à transmettre l'horreur de l'expérience. Mais ce n'est pas le genre qui transmet, ce n'est pas si c'est un homme ou Shoah ou même Maus qui nous narrent, chacun à leur manière, un vécu concentrationnaire. Mais bel et bien les auteurs qui se trouvent derrière crayon ou caméra, qui choisissent un angle et prennent parti pour narrer. Enfin donc, Spiegelman produit à sa manière un témoignage original fait d'ellipses, de bulles et de vignettes. Et si de nombreuses critiques ont fait de Maus un récit choquant et inapproprié, peut-être serait-ce parce qu'il s'agit d'un des premiers témoignages auxquels la société fait face, plus ou moins sans le vouloir, dans une vitrine ou un magasin de journaux. Il ne s'agit alors plus de fermer les yeux et considérer que le sujet est à effacer ou bien à laisser à ceux qui savent, mais bel et bien d'y faire face, partout et tout le temps. La mémoire collective n'est de fait pas une propriété privée, elle est à construire ensemble. Et Maus est, je pense, l'un des piliers de l'édifice. Voilà, le podcast est terminé. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.